chères cliniciennes et cliniciens, merci d'avoir cliqué sur le podcast Clic Physio. Cette série de 10 balado-diffusion vous permettra de vous plonger tête première dans l'univers de la téléréadaptation avec divers acteurs influents du milieu. Laissez-vous charmer par cette modalité d'intervention novatrice qui nous permet de tisser un service sécuritaire, inclusif et de qualité par l'entremise de la toile du web. À un clic de nos patients, vous découvrirez l'importance de ce juste compromis qu'offre la téléréadaptation. Bienvenue sur le podcast Clic Physio, une initiative étudiante dans le cadre d'un projet de maîtrise en physiothérapie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Frédérique Daigle, physiothérapeute, clinicienne et superviseur de stage au sein de la Clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie, soit la CURE. Madame Daigle est aussi directrice des opérations et de mobilisation des connaissances pour le laboratoire de recherche sur la réadaptation en soins primaires du professeur Simon Descaries. Depuis l'automne 2020, elle participe à la conception et l'exécution de l'étude sur la sécurité des interventions sur la COVID longue. Elle transpose également cette expérience vers la clinique où elle fait l'évaluation et la prise en charge des patients atteint de COVID longue. En plus d'épauler diverses équipes cliniques dans cette démarche, elle vient aujourd'hui partager son expertise entourant l'utilisation de la téléréadaptation. Bon épisode à tous! Bon, Frédéric, comment ça va?
Bonjour, ça va super bien, merci.
Donc, Frédéric, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de te croiser sur leur parcours professionnel, est-ce que tu peux simplement dire un peu ton domaine d'expertise dans le domaine que tu travailles présentement?
Certainement. Donc, moi, je suis physiothérapeute à la Clinique universitaire de réadaptation en Estrie, ou la CURE. Je suis physio également, superviseur de stagiaires, là, quand on a nos stagiaires à la clinique. J'ai également un gros volet recherche, donc directrice des opérations et de la mobilisation des connaissances dans le laboratoire du professeur Simon Descaries, donc le laboratoire de recherche sur la réadaptation en soins primaires. À travers ces deux rôles-là, ben évidemment, j'ai eu à toucher à la téléréadaptation, soit initialement avec la clinique ou d'autres projets de recherche. Depuis certains projets avec le laboratoire de Simon, là, je dois dire que la téléréadaptation prend une très grande place dans ma clinique. Donc, ça a un peu réformé notre manière de travailler.
Donc, on recommence à la genèse. Ton premier contact avec la téléréadaptation, ça remonte à quand?
Ça remonte quand même au début de mes années à la CURE. Donc, il y a peut-être 4-5 ans. On était à ce moment-là, la CURE, on est quand même une plateforme clinique qui participe à des projets de recherche des différents professeurs de l'école de réadaptation. Donc, on avait à l'époque, quand je suis rentrée à la clinique, des projets avec Hélène Corriveau et Michel Tousignan, dont le projet de télé-tai chi. Donc, nos patients qui avaient fait des AVC étaient évalués en personne, puis nous, on faisait les interventions en téléréadaptation avec eux. Donc, ça a été ma première expérience de téléconsultation. Puis, c'était vraiment que le volet intervention que j'effectuais dans ce projet-là.
Puis, de fil en aiguille, de ce que j'ai compris, tu as réussi à l'inclure dans ta pratique actuelle. Comment est-ce que tu utilises la téléadaptation ou la téléconsultation actuellement?
Présentement, c'est une autre manière de faire mes évaluations, mes suivis. Évidemment, la pandémie nous a forcé la main. Là, on n'a pas eu le choix de se convertir quand on n'a pas pu voir nos patients en personne. Fait qu'on a appris à la dure à utiliser cet outil-là qui existait, mais qui était peut-être un peu mal aimé. Fait qu'on a pris notre aisance durant la pandémie quand on avait le temps. Puis là, depuis, je travaille maintenant sur des projets avec la COVID longue, donc des patients qui sont atteints de syndrome persistant là, après la COVID aiguë, des symptômes qui perdurent au-delà de 12 semaines. Puis un des principaux symptômes de ces patients-là, c'est la fatigue qui est excessive. Donc, de faire déplacer mon patient puis d'aller creuser dans ses maigres réserves énergétiques pour qu'il vienne à la clinique, faire un traitement, ça rendait quasiment le retour à la maison après ça en auto dangereux. Fait qu'on s'est dit, ben, faut qu'on trouve des alternatives pour économiser l'énergie du patient. La télé en est évidemment une parce qu'on évite ce déplacement aller-retour-là. L'autre avantage majeur, ben, c'est que c'est un projet de recherche pan-québécois. Donc, on avait des patients partout à travers la province. On n'avait aucune limite de territoire. La seule restriction, c'est la connexion Internet. Mais si on avait Internet, on pouvait fonctionner.
Donc, réussir à faire un réseautage comme ça, avec le plan de la recherche, de ce que je comprends, ça a été un plus grand terrain de jeu pour vous pour aller rechercher d'autres patients ou du moins avoir un meilleur échantillonnage pour être capable de mieux tirer un aperçu de la situation au niveau de la COVID longue.
Tout à fait. En fait, la COVID longue, je vois à peu près pas de patients en clinique. Là. C'est vraiment... J'ai une patiente, en fait, que je vois en clinique, c'est exceptionnel. Mais sinon, 100% de mes patients sont vraiment en télé. Ça permet de faire toute une panoplie d'interventions. C'est sûr qu'il faut utiliser un peu son imagination des fois pour le volet évaluation. Là, on est plus en test-retest, je dirais, qu'en test standardisé parce que c'est difficile d'être toujours parfaitement comme dans un protocole. Mais on développe nos outils, on développe nos stratégies, puis on arrive à atteindre nos objectifs de physio, soit de faire une évaluation complète, objective, des objectifs qui sont mesurables, puis faire des interventions qui sont affinées à ça.
Parlons-en, on tombe tête première dans le domaine évaluation ou suivi. Je sais qu'il y a plusieurs applications, du moins logiciels pour y arriver. On ne parle pas nécessairement des plateformes aujourd'hui, mais d'emblée, tu parles de test-retest, de suivi. Comment est-ce que tu réussis à procéder pour faire une évaluation d'emblée?
Bien, c'est sûr qu'il faut réfléchir à son canevas d'évaluation. Comme dans une clientèle musculo en traditionnelle en clinique, on prépare nos tests, on se dit on va aller faire ça, ça, ça. Mais là, il faut que j'y pense en me disant qu'est-ce que je peux faire à mon patient? Mon patient va devenir mes mains en plus de rester le patient. Donc, c'est lui qui va se faire sa résistance, c'est lui qui va devoir se faire ses contraintes ou faire sa mobilisation ou aller se stabiliser. Fait qu'il y a beaucoup de mécanismes, tu sais, par exemple, en thérapie manuelle, on va placer le patient d'une certaine manière pour aller stabiliser un segment puis faire bouger l'autre. Mais je vais utiliser ça aussi en téléréadaptation parce que ça me permet d'aller isoler dans mon image. Je veux voir le haut du dos bouger, bien, je vais te faire placer d'une certaine façon pour que le bas du dos n'aille pas influencer ton mouvement autant. Donc, c'est des stratégies qu'on voit dans d'autres domaines qu'on va réutiliser pour se fier vraiment à ce qu'on voit quand on parle d'observation, d'amplitude, par exemple. Puis après ça, bien, c'est beaucoup du mimétisme. Je vais montrer à mon patient, par exemple, bien, tu vas placer ton bras comme ça, tu vas tourner ton pouce vers le bas, puis tu vas, avec ton autre main, aller résister à ton mouvement comme si tu voulais lever ton bras. Puis mon patient, en me regardant faire avec mes explications, finalement, se fait un petit calme tout seul à la maison, puis il peut me dire « j'ai mal, j'ai pas mal ». Puis ça me donne mon résultat de test biaisé parce qu'il est auto-fait, mais quand même, ça me donne une mesure de résultat que je vais pouvoir réévaluer dans le temps parce qu'il va le réévaluer de la même façon après.
Souvent, quand on parle de télératation ou des suivis, les gens, je pense qu'une des premières confrontations, c'est la technologie, mais de savoir si le test que je viens de faire, bien, c'est reproductible ou est-ce que je suis capable de faire un suivi dans le temps. Dans la préparation que tu as mentionné, l'usage de certains peut-être canevas ou de stratégies comme ça, y a-t-il des ressources que tu as connues ou tu as rencontrées sur ton passage qui t'ont aidé ou des ressources que tu me dirais « ah, ben ça, c'est intéressant d'aller feuilleter pour en apprendre davantage »
Pas vraiment. C'est sûr que, tu sais, pour tout ce qui est évaluation, là, je parlais d'un test musculo-squelettique, là, un petit CAN, mais je dirais que j'ai fait surtout de l'évaluation en lien avec la COVID longue. Puis là, il y a en effet beaucoup, beaucoup de ce qui a été réfléchi en termes de réadaptation a été réfléchi en télémédecine parce qu'on était en contexte de pandémie à la base. Pour ce qui est de la musculo-squelettique, je dirais qu'il faut trouver notre manière de le twister pour le rendre réaliste à la maison. Puis se dire qu'on n'est peut-être pas en situation de test spécifique standardisé. On est peut-être plus en situation de test-retest. Je vais comparer mon évolution dans le temps et non pas comparer à une norme parce que je ne suis probablement pas placée telle qu'il faudrait que je le sois dans mon idéal. Fait que je dirais qu'il faut avoir un certain confort avec l'incertitude dans le sens où est-ce qu'on n'a pas la réponse exactement. Je peux voir mon amplitude puis l'estimer à l'œil. À la limite, je peux mettre un gogno sur mon écran, mais c'est pas comme sentir le mouvement dans mes mains. Il va avoir une certaine notion d'incertitude ou d'approximation qui est là, qui est pas mauvaise, qui empêche pas de faire l'évaluation, qui empêche pas de faire le traitement, mais qui amène un niveau de c'est sûr, de biais qui va être là, qui est pas le même que si j'avais le patient dans mes mains.
Tu mentionnais que tu travailles avec les gens qui ont la COVID longue, qui ont un niveau énergétique limité. Le fait d'avoir cette option-là dans l'adhérence au traitement, le fait d'avoir des suivis, c'est quoi les avantages que tu as trouvé de pouvoir utiliser cette technologie-là pour faire tes interventions?
Bien, point à la ligne, ça rend ça possible. Si c'était pas de la téléréadaptation, beaucoup de mes patients que je ne pourrais pas voir, même sans tenir compte de la question de distance. Là. Si tout le monde était dans ma ville, tous les patients que je voyais étaient dans ma ville, j'ai beaucoup de mes patients qui ont juste pas cette endurance-là. T'sais, on parle de fatigabilité là, très, très, très élevée. Des gens qui n'arrivent pas à faire leur quotidien de base puis être fonctionnel. Fait que si je vais rajouter une séance de physio avec un déplacement en plus, je vais aller utiliser des ressources qu'ils n'ont pas puis qui vont les empêcher après ça de continuer dans leur maigre quotidien. Donc, je dirais que le principal avantage, c'est vraiment l'aspect de gestion d'énergie là, que le patient peut être là. Ma séance dure 45 minutes, il est connecté 2 minutes avant, il est déconnecté tout de suite après. On peut adapter, on peut se placer dans des situations. Tu sais, on va aller au salon pour être plus confortable. Je vais faire coucher dans le lit pour faire la relaxation. Donc, le patient peut me traîner un peu partout avec lui. Donc, pour ça, c'est super avantageux là, pour la gestion d'énergie puis la contextualisation du traitement dans le quotidien du patient. De voir sa maison puis de pouvoir lui dire, mais c'est dans cette chaise-là que je vais vouloir que tu le fasses, puis que tu le sois placé de telle façon, ou quand tu es à ton évier, je veux que tu fasses telle chose. Ça aide le patient à le voir, puis à le contextualiser, puis à, après ça, l'intégrer dans son quotidien.
L'avantage de mettre un pied dans le domicile pour pouvoir tirer profit pour faire notre évaluation, je trouve que c'est un plus vraiment intéressant que des fois en clinique, on n'a pas nécessairement accès. Oui, on touche aux patients, mais de mettre un pied dans leur univers pour pouvoir, après ça, comme tu disais, de contextualiser. Donne-nous un peu un exemple de. Tu as parlé du comptoir de cuisine où quelqu'un t'a fait ben, une chance que j'ai eu l'opportunité de faire ça parce que maintenant, il peut l'intégrer de telle manière ou tout simplement, ben, une fois qu'il l'a réalisé, ben, je peux faire une meilleure progression parce que je sais qu'il va réussir à le faire parce qu'il est dans un endroit sécuritaire puis j'ai vu que l'endroit, ce qu'il va réaliser, ben, c'est propice à la récurrence du traitement.
Je te dirais que le plus frappant qui me vient en tête, c'est surtout les patients qui sont de retour au travail puis que je vois au travail, qui prennent une pause de travail puis on fait la séance dans leur bureau. Mais ça me permet, tu sais, bon, je sors mon petit chapeau ERCO, là, mais ça me permet de faire justement les conseils par rapport au poste de travail, positionnement, d'intégrer, tu sais, ben, je veux que tu attaches ton élastique à telle patte de ton bureau puis que tu bouges ta jambe de telle façon pour faire ton renforcement. Puis ton élastique, tu le laisses là. Fait qu'à toutes les fois que tu t'accroches dedans, tu fais ton exercice. Ça permet vraiment de donner des stratégies là, au day-to-day, puis vraiment concrètes pour le patient. Puis on est chez lui, on est dans son milieu de travail. Fait que tout ce qu'il nous explique, puis qu'on peut imaginer un peu, ben là, on le voit, puis on peut dire, ah, c'est ça que tu voulais dire quand tu me dis que ton bureau est un petit peu en coin, mais que tu as la lumière par là, fait qu'il faut que tu te tasses un brin. Tous les petits détails, là, fignolement, ben on le voit là. Fait qu'on peut intervenir directement puis prendre le temps de le faire.
Puis l'opportunité de faire la téléadaptation sur le suivi à long terme, puis après ça, de pouvoir avoir du moins certaines données en ce qui a trait à la recherche. Qu'est-ce que tu penses que ce que vous allez recueillir vont vous amener peut-être comme avancée à pouvoir poursuivre dans ce domaine-là?
Par rapport à la télé, ben je pense que depuis le temps que j'en fais, puis dans les différents domaines que j'en ai fait, là, de la neuro, de la cardio, de la musculo, je pense que l'avancée numéro un que la pandémie va nous avoir amené, en fait, c'est de nous faire réaliser à tous et chacun que c'est réaliste et c'est utile comme technologie. C'est pas nécessaire pour tous, c'est pas nécessaire tout le temps, mais je pense à nos cas CSST, de voir le patient dans son milieu de travail, c'est une richesse qu'on a rarement accès en physio. Là. Il y a quelques physios qui vont aller sur les milieux de travail, mais pour tous les travailleurs qui travaillent dans des entreprises différentes, dans des milieux différents, qui n'ont pas nécessairement le droit d'amener leur thérapeute sur place. Je pense que c'est une grosse plus-value, puis ça nous a fait réaliser que c'est possible. T'sais, on n'a pas besoin de faire des visites sur l'entreprise pour faire des visites au travail avec notre patient. Fait que ça, c'est le volet télé. Puis c'est accessible dans toutes les clientèles aussi. T'sais. Je pense à la pédiatrie, un premier suivi en clinique, puis après ça, on s'en va avec maman en téléréadaptation, puis on fait le suivi des exercices, puis maman peut faire comme avec nous, avec la poupée à la clinique, maman le fait avec bébé. Il y a moyen de faire ça, sauver du temps pour le patient, puis de rendre le temps efficace aussi pour le traitement. Donc, tu sais, je vois plusieurs clientèles où ça peut s'appliquer, là, même celles que j'ai peut-être moins touchées, mais où je peux voir des applications possibles. Du côté COVID long, ben évidemment, et je vais mettre en fait là toutes les ce qu'on appelle les syndromes post-viraux chroniques, donc les maladies qui amènent plus de fatigabilité, diminution d'endurance, diminution de capacité fonctionnelle de façon générale, ben on a soudainement accès à un petit peu plus de réserve énergétique, puis ce petit peu d'énergie-là, on peut l'investir en physio pour aller chercher notre petit avantage de plus, puis être un brin plus efficace dans notre traitement. Fait que j'espère que ça va aider à cette clientèle-là, puis également à rendre la physio plus accessible pour la population, qui n'a pas nécessairement le temps de se déplacer pour venir en physio.
Il y a un clinicien qui serait encore ambigu par rapport à inclure ou non la téléadaptation, du moins découvrir ce milieu-là. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Essaye-le. Pour l'essayer, il n'y a pas de recette magique. Puis il va y avoir des cas des fois où est-ce que le clinicien va se dire « Ah, j'aimerais ça le voir, j'aimerais ça y être, c'est l'occasion. Vas-y, en télé. Tu vas le voir, tu vas y être, puis tu vas pouvoir faire tes recommandations en conséquence. Puis tout le reste, on apprend, on est bon pour adapter autour de notre patient, bien là, c'est le temps d'adapter notre canevas d'évaluation à la réalité de télé. Donc, je pense qu'on est outillé pour faire ça.
Définitivement. Puis, c'est ce qui nous amène à la dernière section. Petite question, rafale, en lien avec la téléadaptation. Tu me lances la première idée qui te vient en tête. Quand je te parle de téléadaptation, ta plateforme que tu utilises actuellement, c'est laquelle?
Teams.
Puis, ma clientèle favorite pour l'utilisation de la téléadaptation actuellement, c'est laquelle?
Bien, j'ai bien, mais COVID longue.
COVID longue, excellent. Ton outil d'évaluation préféré pour l'évaluation à distance?
Je suis beaucoup dans des questionnaires standardisés présentement, fait que ça parlera peut-être pas à tous, mais certains questionnaires là, en lien avec la COVID longue qui m'aident à détecter des symptômes plus prédominants. Donc, Yorkshire et DePaul seraient mes deux qui me viennent en tête.
Puis, ton petit truc 101 pour le positionnement, la caméra ou du moins dans quel milieu, où est-ce que tu positionnes le patient?
On apprend à devenir caméraman, puis notre patient apprend à devenir caméraman. Donc, il faut avoir de la place derrière soi pour se reculer puis être en mesure de se voir. Il faut avoir une place pour se coucher par terre. Moi, je suggère le laptop parce qu'on peut le déplacer puis le mettre à terre justement à notre hauteur ou en hauteur. Fait qu'à la clinique, j'ai des tablettes de serviettes qui sont plus hautes qui me servent des fois de socle. Puis des fois, je suis au sol avec mon ordi puis mon patient, puis c'est ça qui est plus pratique. Faut être humble et puis se permettre de prendre le temps de se placer intelligemment pour faire ce qu'on doit faire.
Excellent. Bien, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, Frédéric, un gros merci d'avoir pris de ton temps pour faire une petite intervention avec nous dans le monde de la téléadaptation. Puis, je te souhaite une bonne continuité.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode réalisé par Click Physio, un podcast où vous faites la rencontre de la téléréadaptation par l'entremise de divers acteurs du milieu de la physiothérapie. À un clic de vos patients, apprenez à apprécier la juste valeur de la téléréadaptation. Bref, si vous avez aimé le tout, n'hésitez pas à partager notre contenu sur vos diverses plateformes et de commenter, aimer nos différentes publications. Nous vous invitons également à vous joindre gratuitement à notre forum de discussion membre sur notre site web Click Physio pour en apprendre davantage sur la téléadaptation. Au plaisir de vous compter parmi nous.